Ndinga News, tout de suite le journal. Le journal sur Ndinga News. Ndinga News, le journal.
Merci de votre fidélité à la radio Ndinga News FM. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal présentée par James Katoto, mise en ordre par Ignace Kungu. Tout de suite le grand titre. 3 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan provisoire dans un caisson de toit dans la majorité des villages environnant Témoué en territoire de Kélémi. Selon le ministre provincial du plan, Simon, l'intérim du gouverneur, 6 villages ont été touchés. Dieudonné Massol fait savoir en outre que plus de 500 personnes fouillant ces atrocités ont été bien accueillies. Et d'autres sources, par contre, avancent un bilan contradictoire d'une dizaine de morts. Nous serons au site Kivu dans ce radio-journal où la pluie qui s'est abattue sur les territoires des Mwenga la semaine dernière a causé d'énormes dégâts. Des champs, maisons, plusieurs établissements scolaires et bien d'autres ont été ravagés par les eaux. Le cadre de concertation territoriale qui a donné ses bilans. Le détail c'est tout de suite. Bienvenue messieurs, bienvenue mesdames. Et je l'ai dit tantôt, Tanganyika, 3 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan provisoire des incursions de toit dans la majorité des villages environnant Témoué en territoire de Kélémi. Selon le ministre provincial du plan, Simon, l'intérim du gouverneur, 6 villages ont été touchés. C'est notamment Kibondé, Ompala, Kimena et consort Dieudonné Massol. Fait savoir en outre que plus de 500 personnes fouillant ces atrocités ont été bien accueillies. L'autorité provinciale le précise que la communauté humanitaire est déjà à plein d'œuvres pour aider ceux-là qui ont fui les atrocités, mais aussi les dispositifs sécuritaires est déjà mis en place pour la sécurisation de la population dans leurs villages respectifs. Dieudonné Massol est au micro de Paul Ilunga Boniface.
Après les informations venues des services de sécurité qui nous sont parvenues au niveau du gouvernement provincial, nous avons été informés que c'est depuis le jeudi passé qu'il y a eu un groupe de toits qui ont commencé à vandaliser un certain nombre de villages jusqu'à provoquer des morts. Et les informations à notre possession font pratiquement état de plus ou moins 3 morts, plusieurs blessés et plusieurs d'autres dégâts tels que des champs vandalisés ainsi de suite. Donc c'est un peu ça l'information qui nous est parvenue des services de sécurité. Tout à fait normal, hein, lorsque nous avons des situations comme ça, il y a ce que nous appelons les mouvements de population. Au niveau du gouvernement provincial, la première des choses était d'abord d'identifier donc les personnes qui fouillaient pratiquement tous ces problèmes, et puis après voir quelles sont les dispositions que le gouvernement provincial allait prendre. Au moment où je vous parle, il y a le cadre de concertation humanitaire qui est composé du gouvernement provincial, des ONG internationales ainsi que des agences du système des Nations Unies, y compris les ONG qui œuvrent au niveau de la province, donc les ONG nationales, qui sont en train de travailler d'arrache-pied pour voir comment apporter des réponses rapides à ces populations. Avant de s'attaquer aux conséquences, il fallait d'abord étudier en profondeur les causes.
Il faut dire que, par contre, d'autres sources avancent un chiffre d'une dizaine de morts. À Poto, dans la province du Haut-Katanga, 11 pêcheurs zambiens opérant sur le lac Mouero avec le filet prohibé ont été arrêtés par la police fluviale et ont été présentés devant la presse ce lundi 22 mai 2023. Ces jeunes ressortissants zambiens ont été arrêtés avec un lot de 50 filets qu'ils utilisaient dans les eaux du lac Mouero sur une partie de la République démocratique du Congo. Selon l'administrateur du territoire de Poto, ces filets seront calcinés et ces derniers vont passer les jours dans la prison avant d'être libérés. Suivez ici Derby Lumbwe, administrateur de Poto, au micro de Bertin Kalembe.
Nous avons largué sur le lac nos services pour la réglementation de la pêche. Comme vous le savez, nous sommes en train de prendre des dispositions nécessaires et utiles pour que nous puissions mettre fin, en fait, sur le lac, de pratiquer, en fait, la pêche prohibée. Les services ont mis la main sur 11 braconniers zambiens qu'ils ont arrêtés. Nous avons aussi saisi leurs engins et leurs moteurs hors-bord pour que les braconniers zambiens tirent une leçon, de sorte que prochainement qu'ils prennent cette fois-là des dispositions et même qu'ils prennent la conscience de comprendre que lorsqu'ils entrent sur le lac avec des filets prohibés, des armes blanches, ça ne pourra pas nous avancer. Nous sommes en train nous-mêmes de préparer une insécurité alimentaire. Je voudrais exhorter et interpeller tous les pêcheurs qu'à partir du moment quiconque sera au fait arrêté sur le lac, il verra comme toujours ses engins saisis, les moteurs hors-bord saisis et tous les pêcheurs braconniers qui seront arrêtés, ils seront transférés au parquet et ils vont se retrouver à Sainte.
L'actualité en direct de votre proche milieu, Ndenga News sur 104.0 MHz, tout près de ses auditeurs.
Feuilleton Inspection Générale des Finances et le gouvernement provincial du Kasaï Oriental, le porte-parole du gouverneur de Provence s'est prononcé sur les allégations de l'UGF qui ont conduit à la saisie des comptes bancaires de la Provence. André Rosy Kassongar jette en bloc les accusations de l'UGF et les taxes des fausses. Les contenus du document avec notre permanent en Mbujimayi, Emmanuel Kalongi.
La réaction du gouvernement provincial est portée en signature par l'attaché de presse et porte-parole du gouverneur. La saisie des comptes bancaires de la province et l'existence de deux comptes bancaires non déclarés. Du premier point, relatif à la saisie des comptes bancaires, l'attaché de presse déclare, je cite, « Les différents textes légaux et réglementaires y afférents traitent de la dite question. » Fin de citation. Des deux comptes bancaires non déclarés, le rédacteur confirme l'existence de ces comptes et seul le premier donc, Solidarité Kasaï Oriental, a été ouvert des notoriétés publiques. Aucune précision n'est donnée sur le deuxième, donc le compte Agripel. Les porte-parole du gouverneur de province confirment par ailleurs le transfert du gouvernement central des sommes faramineuses dans les deux comptes, mais reste-tu quant à la sortie de plus de 360 millions de francs congolais, une sortie taxée de frauduleuse par l'IGF dans la mesure où elle n'a été ni programmée ni justifiée. D'autres précisions importantes à retenir. Le compte Solidarité Kasaï Oriental a été ouvert en août 2022 dans le cadre de l'assistance et du développement en exécution du projet Maï Mouningou, un projet qui n'a pourtant pas été populaire ni en Mbujimayi ni à l'intérieur de la province. 30 jours plus tard, soit le 3 mai 2023, les inspecteurs de l'IGF adressent une nouvelle correspondance au ministre de l'Agriculture pour demander les pièces justificatives des dépenses des fonds Agripel. C'est donc à la même date que l'IGF, par mesure conservatoire, a enjoint au directeur général de banque débloquer tout mouvement des sorties des fonds dans le compte bancaire de la province. Mais les 200 millions de francs congolais transférés dans le compte Agripel, un compte réservé spécifiquement au projet des champs, passe inaperçu dans cette mise au point. Avant de terminer, les porte-parole du gouverneur attirent également l'attention sur autre chose. Notez, en date du 3 avril 2023, les inspecteurs de l'IGF ont sollicité auprès du ministre provincial en charge de l'agriculture le plan de décaissement des fonds Agripel. Les observateurs notent que 14 jours après, soit le 17 avril 2023, le ministre sectoriel présente à l'IGF les contraintes liées au calendrier agricole et fait savoir que des dépenses urgentes s'imposent mais ne donne pas le plan de décaissement. Dans les dernières lignes du document, le rédacteur écrit, je cite, « Le gouvernement provincial est étonné des insinuations dommageables faites par les inspecteurs des finances en mission. » Fin des citations. C'est aussi la fin de ce condensé de la mise au point du gouvernement provincial.
Emmanuel Kalongi, en Mbujimayi pour Ndenga News.
À Kinshasa, Christophe Mboso, président de l'Assemblée nationale, accompagné de tous les membres du bureau, a reçu en audience ce lundi 22 mai 2023 au Palais du Peuple une équipe d'experts internationaux du Conseil des droits de l'homme en République démocratique du Congo, conduite par la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC, Marie-Thérèse Keïta. Cette délégation a échangé avec les speakers de la Chambre basse du Parlement au sujet de la justice transitionnelle. Reportage, Guillaume Goyamissi.
Conduite par la présidente Madame Marie-Thérèse Keïta Bokoum, la délégation onusienne a échangé avec le président de la Chambre basse du Parlement sur la justice transitionnelle. Au sortir de cette entrevue, Marie-Thérèse Keïta s'est dit être à la tête d'une grande équipe d'experts internationaux de l'ONU en République démocratique du Congo pour une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale et son bureau.
Et effectivement, d'accompagner le processus ici, et ce mandat nous le tenons du Conseil des droits de l'homme. Et nous avons un mandat de 1 an et nous avons l'intention, au cours de ce mandat, de renforcer justement, d'aider au renforcement des capacités du pays et d'aider aussi à la mise en œuvre non seulement de la justice au niveau provincial, comme cela a été décidé pour le Kasaï, mais aussi aider à la mettre en place au niveau national et pourquoi pas au niveau régional.
De son côté, le président de l'Assemblée nationale a fait état du chantier qu'elle a en œuvre dans ces domaines et de la vision qu'est la représentation nationale, celle d'accompagner les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, et la présidence de la République qui a mis en place un fonds de réparation pour les victimes et d'accompagner toutes les mesures qui permettront de mettre en œuvre la justice transitionnelle dans le pays. Madame Marie-Thérèse Keïta a précisé par ailleurs que son équipe travaille pour le niveau national et dans tous les domaines.
Nous intervenons selon notre mandat pour accompagner le pays, le gouvernement, les autorités dans non seulement l'élaboration, donc la conception de cette politique, dans l'élaboration de cette politique et dans la mise en œuvre de cette politique.
En effet, l'objectif est l'aide du Conseil des droits de l'homme, du Conseil de sécurité, aide à mettre en place un élément important. C'est la complémentarité des acteurs au niveau national, niveau international et la complémentarité de la région dans le domaine de la justice transitionnelle. Depuis Kinshasa, Guillaume Ngoyamissi pour la radio Ndenga FM.
Ndenga News sur l'ensemble des territoires de la province du Tanganyika jusque dans la région du Grand Lac. La meilleure de l'information des proximités.
Une personne a été tuée par balle par des présumés rebelles du groupe Gumino Twiganeo la nuit du dimanche dernier aux environs de 21h au village Mikelenge. La victime fut un meunier au village Touetoué, une bourgade située à 5 km de Mikelenge, un territoire de Fizi au sud Kivu. Contacté à ce sujet, monsieur Naluvumbu, l'un de notables de Fizi et chercheur en matière de sécurité, condamne cet acte et tout en appelant les services de sécurité au respect de leur serment, celui de protéger la population et ses biens. On l'écoute dans ses propos recueillis par Massimo Balole Valentin.
C'était la nuit, messieurs les journalistes, à 21h, là, à Touetoué, où les Twiganeo des Makanika ont tué les jeunes menacés par balle, alors qu'ils travaillaient là-bas comme meuniers. Et là, à Touetoué, c'est à 5 km des Mikenge, monsieur le journaliste. Que cela ne suffise pas, il n'y a pas longtemps que ceux des Minembwe et les autres des Mikenge ont dit qu'ils veulent la réunification. Ils ne veulent plus tuer les gens. Ainsi, à moins de 2 jours passés de leur unification, ils commettent encore ces actes.
Pour rappel, en date du 13 mars 2023, plusieurs villages du secteur de Lulenge dans le haut plateau des Fizi, toujours au sud Kivu, ont été la cible des attaques de ces groupes rebelles. Au sud Kivu toujours, la pluie qui s'est abattue sur les territoires de Mwenga la semaine dernière a causé d'énormes dégâts des champs, maisons et plusieurs établissements scolaires et bien d'autres ont été ravagés par les eaux. La société civile de Mwenga qui a répertorié les dégâts lance également un SOS. Hilaire Isombia, président du cadre des concertations de la société civile de Mwenga, est au micro de Jocelyne Baïga.
Les pluies qui s'abattent dans la majeure partie du territoire de Mwenga ne passent pas sans laisser des dégâts qui affectent les communautés. Ces pluies torrentielles associées aux vents violents ont amené les inondations dans des rivières et qui ont débordé les étangs piscicoles. Ils ont fait des érosions des montagnes et des toitures des maisons, des écoles emportées. Cette situation a affecté le groupement des Bantumba où la grêle a détruit les champs de manioc et des bananeraies et dans le groupement des Bizalkou dans le village Kibumba. Des maisons et des étangs piscicoles, les champs n'ont pas été épargnés. Cela, c'est en chefferie de Bassil. Et pour la chefferie de Wamuzim, les écoles comme l'Institut technique agricole de Lubigi, dans le groupement de Banakyungu, et une école du groupement de Banakabale, et tant d'autres infrastructures dont les églises et les marchés n'ont pas été épargnées. La nécessité d'analyser les conséquences de ces pluies qui affectent la sécurité alimentaire est une urgence pour préparer la communauté à riposter contre les désastres et les changements climatiques. Les besoins d'implémentation de projets de reboisement dans des espaces communautaires comme les églises, les écoles et les centres de santé est un besoin de la communauté. Que les partenaires techniques et financiers accompagnent notre gouvernement pour prévenir les risques et les conséquences. Plantons les arbres pour sauver notre vie.
Dans les soucis de restaurer la paix dans la province du Nord Kivu, la 34e région militaire vient de mettre en place une structure nommée Task Force Participative qui va travailler aux côtés des services de sécurité pour fournir les éléments d'information des suspects. Le lancement de cette structure a eu lieu ce 22 mai 2023 à Goma. Correspondance depuis cette ville de Jean-Mathieu.
Désormais, toute la population doit s'impliquer dans la sécurité de la province vu la hausse du taux de criminalité urbaine et de l'agression de la RDC ces derniers temps. Voilà ce que justifie aujourd'hui le démarrage de la campagne Task Force Sécurité initiée par le commandant de la 34e région militaire, le général-major Binon Pezo. L'objectif de cette démarche vise à sensibiliser les habitants à contribuer à la sécurité en dénonçant tous les suspects tels qu'indiquent ici les porte-parole de la 34e région militaire.
Nous avons mis en compte la cartographie de la ville de Goma et nous avons ciblé les quartiers. Ces quartiers, nous les avons divisés en sous-quartiers. Et dans chaque sous-quartier, nous avons ce qu'on appelle la task force. L'objectif, c'est lequel ? C'est cette sécurité participative. Une sécurité participative de manière à ce que toute la couche de la population puisse participer à la sécurisation de notre ville. Et d'ailleurs, les résultats de cette task force... Il y a une initiative de la 34e région militaire, commence déjà à se faire voir. Vous êtes sans oublier que ça fait déjà plusieurs jours qu'à Katoï, il n'y a pas de tir de balle, qu'on n'enregistre plus de morts. En fait, tout ça, c'est le fruit de la task force.
La population qui salue cette initiative promet de s'approprier cette campagne pour la restauration de la paix en province du Nord Kivu. Nous demandons que les civils soient intégrés dans la patrouille nocturne avec la police et l'armée pour lutter contre l'insécurité. Et nous, comme les taximens moto, notre contribution sera de s'associer avec eux afin de voir le rétablissement de la paix dans la ville de Goma. Notons que toutes les couches de la population sont impliquées dans la task force sécurité en étroite collaboration avec la police et l'armée.
Pendant ces temps, toujours au Nord Kivu, le gouverneur militaire de cette province a annoncé la semaine dernière à Goma la reprise des activités minières dans le territoire de Masisi. Dans son communiqué lu par le lieutenant-colonel Guillaume Kaiko, son porte-parole, l'exécutif provincial appelle les acteurs œuvrant dans le secteur minier de s'activer pour rejoindre chacun son lieu de travail, car la sécurité est déjà rassurée par le gouvernement central. Suivez Guillaume Kaiko dans ses propos recueillis par Germain Tchikourou.
Consécutivement aux résultats d'évaluation réalisés conjointement par toutes les parties prenantes dans l'encadrement des activités minières en province du Nord Kivu, en particulier dans les territoires de Masisi, et étant donné que la situation sécuritaire de cette entité est sous contrôle des forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo, il est demandé à tous les acteurs intervenant dans les dites chaînes d'approvisionnement de prendre des dispositions utiles pour une reprise effective, dans un bref délai, des activités dans cette partie de la province. À cet effet, j'invite en particulier le partenaire PACT-ITSI de déclencher la procédure de distribution de matériel de traçabilité dans tous les sites miniers qualifiés et validés verts.
Et voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.radiodenganews.net, mais aussi sur nos antennes. Du reste, faites bien tout ce que vous voulez faire de votre soirée, mais faites-les bien. Surtout, restez positifs. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.